Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. 20 plus 16 égale 36 égale 10. Ne partez pas, on s'explique tout de suite. 20 commandes fermes d'Airbus A380 plus 16 en option par la compagnie Emirates égale 36 appareils égale une production garantie pour 10 ans de plus pour le vaisseau amiral de l'avionneur européen. Le géant des airs a eu chaud. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Airbus qui, quelques jours avant la concrétisation de cette commande, évoquait publiquement la possibilité d'arrêter la production de l'A380. C'est qu'avant cette commande par son principal client, l'avion sans véritable concurrent ne se vendait pas bien, et même pour ainsi dire plus. C'est à se demander s'il y a encore un avenir pour les jumbo jets, et c'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous rejoignent ce soir. Avec nous en studio, Yann Kochnek, bonjour.
Bonsoir,
Vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire aéronautique Air et Cosmos. Et par téléphone de Toulouse, Richard Carcaillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable pour Airbus du développement du marché de l'A380. Une première question pour vous, Richard Carcaillet. Avant cette vente à Emirates, Airbus a évoqué pour la première fois publiquement l'arrêt possible du programme A380. Alors, on vous le demande très clairement, c'était de la tactique commerciale pour pousser Emirates, principal client de l'A380, à signer, ou est-ce que vous avez vraiment eu peur?
Non, disons qu'il y avait une part de dramatisation, certainement, qui fait partie du jeu des négociations qui se poursuivaient depuis de nombreux mois et qui avait failli se conclure à l'occasion du salon de Dubaï en novembre. Et ça faisait partie donc d'une mise un peu au pied du mur de notre plus grand client sur le programme A380. Mais il est vrai qu'une réflexion purement économique pouvait amener à se poser la question.
Yann Kochnek, vous y avez cru à cette possibilité au moment de la présentation du bilan 2017 d'Airbus?
Oui, parce que tous les deux étaient condamnés à s'entendre. Quand je dis tous les deux, c'est-à-dire Airbus et Emirates. Pourquoi? Parce que en ne prolongeant pas la vie industrielle de cet avion, Emirates et Airbus auraient été contraints de passer en perte et profit des investissements colossaux. Airbus avait besoin d'Emirates pour lui donner 10 ans de vie industrielle supplémentaire et donc pour valider son concept de doublement du trafic aérien qui engorge les grandes plateformes asiatiques ou européennes, et Emirates qui a fait de cet avion son arme de guerre, hein, son outil de croissance phénoménal depuis le début des années 2000, avait besoin que cet avion continue à voler.
Autrement dit, Emirates et l'Airbus A380 sont, peut-être pas irrémédiablement, parce que c'est jamais irrémédiable, mais sont mariés. Au départ, Airbus tablait sur 1200 unités sur 20 ans. Et avec cette commande, et si les 16 appareils en option sont confirmés, on est donc, si j'ai bien calculé, à 353. Pourquoi est-ce que cela ne tourne pas comme prévu, Richard Carcaillet?
Alors d'abord, juste une précision.
Allez-y.
Quand on a parlé de ces chiffres de 1100, 1200, 1300 avions, à l'époque du lancement du programme, il s'agissait d'avions de grande capacité, au-dessus de 400 sièges, et ça incluait donc à l'époque, évidemment, le 747 qui se vendait, qui était le produit unique dans ce domaine des grands avions.
Oui, oui, c'est pas juste la 380, c'est oui, le marché des jumbo. Hein.
Et donc, ce que l'on visait, comme on vit dans tous les secteurs d'un marché qui est un duopole entre Boeing et Airbus pour tous les avions de plus de 100 places, c'était la moitié d'un segment donné. Donc on visait plutôt un marché de 600-700 avions, disons, alors à un horizon de 20 ans. Aujourd'hui, en ayant vendu donc 350 et quelques, on peut dire que bon, le succès aurait pu être plus immédiat et plus spectaculaire, mais on n'est pas non plus complètement loin des objectifs que l'on s'était fixés à l'époque. Ils ont été assez mal compris par beaucoup, en 10 ans, Airbus pense qu'ils vont vendre 1200 à 380.
Alors, c'est bien de le préciser, je vous repose la question à vous, Yann Kochnek, puisque ce n'est pas un échec commercial, mais Richard Carcaillet vient de dire que ce n'était pas, lui-même, que ce n'est pas le succès attendu. Pourquoi est-ce que cela ne tourne pas comme prévu?
Il y a eu plusieurs facteurs. D'abord, la liste de clients visés par Airbus. Bon, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un peu un retour en arrière et revenir un peu sur la genèse de ce programme. Bon, le futur A380 est déjà dans les cartons d'Airbus dès le début des années 90. Et Airbus commence à se lancer à ce moment-là dans le long courrier. Ça donnera les A340. Mais déjà, ils ont en ligne de mire un très gros porteur qui concurrencera le 747. Et pour pour convaincre les compagnies aériennes de passer du 747 à la 380, ben, il faut faire un avion qui soit bien mieux que le 747. Le problème, c'est que le marché visé a été profondément bouleversé. Donc, il y a eu les attentats du World Trade Center qui s'est traduit par une restructuration drastique du transport aérien américain. Il y avait là trois clients potentiels pour la 380 et ces trois clients ont soit fusionné entre eux et en même temps ont revu leur structure réseau. Je parle de Delta, Northwest et United Airlines qui maintenant ont sorti tous leurs 747. Voilà, trois clients de moins pour la 380. Il y avait aussi deux grandes compagnies japonaises qui étaient dans la cible de la 380, All Nippon, JAL, et quand la 380 est lancée, Japan Airlines fait voler au-dessus du Japon, sur ses vols intérieurs entre Tokyo et Sapporo, et les grandes métropoles japonaises.
Du 747.
Avec plus de 400, voire même presque 500 passagers, parce qu'ils étaient en haute densité. Donc, voilà. Donc, et ces compagnies japonaises, elles aussi, ont subi de lourdes restructurations. Donc, c'était deux clients supplémentaires en moins. Et je vous rappelle, c'était de grosses flottes de 747. Hein. Surtout notamment JAL, c'était au moins une quarantaine de 747. Donc, si vous voulez... Après la crise de 2008 est arrivée, et c'est vrai que les opérateurs, ceux qui avaient commencé à réceptionner la 380, les ont pris à un moment assez difficile pour eux, les opérateurs, et ça a donc pas été facile de gérer les coûts, les surcoûts engendrés par la mise en service de cet appareil.
Et pourtant, tous ceux qui ont voyagé en A380, Richard Carcaillet, je vais faire votre travail, ils le trouvent formidable, silencieux, confortable, stable. Pourquoi est-ce qu'il ne convainc pas, au-delà des clients, les acheteurs, ceux qui proposent des avions ?
Alors, c'est un avion, en effet, extrêmement, extrêmement agréable, très très plaisant. Les gens adorent voler dessus. C'est un avion qui donne vraiment une expérience de voyage très très intéressante, dans toutes les classes d'ailleurs, hein, avec des sièges aussi plus larges.
Y compris en éco, c'est vrai.
Oui, oui.
Je confirme.
Pour qualifier,
oui, moi aussi, je confirme.
Un peu ce que disait Yann, avec lequel je suis largement d'accord, sur les changements. Le transport aérien est une industrie très dynamique, donc elle change... rapidement, elle change en permanence. Emirates n'était même pas dans la liste des clients potentiels d'un A380 à l'époque de son lancement.
Tout à fait,
ouais. Par contre, ANA est devenue client d'ores et déjà. Ils vont prendre une livraison de leurs premiers avions à partir de 2019. Ils vont l'employer sur Honolulu, qui est une route touristique très importante pour le marché japonais. Et on travaille évidemment en continu à persuader d'autres compagnies telles que notamment Japan Airlines. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la 380 a effectivement remplacé le 747 en haut des flottes des grandes compagnies, et que si on le produit aujourd'hui à des taux un peu plus faibles que ce que l'on aurait espéré, on a produit jusqu'à des taux de 25, 26, 27 avions par an. Cette année, en 2017, on en aura livré 15, on va en livrer 12 l'année 2018. Donc on réduit la production. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 747, ou le dernier succès d'année du 747, qui est apparu quand même dans les années, enfin, en 1970, qui n'a été produit depuis quelques années que en version tout cargo, n'est produit qu'à 6 avions par an. Donc il y a quand même là un effet de remplacement et de domination de la 380 de ce segment des grands avions qu'il faut quand même souligner.
Ouais, mais justement, ça veut dire quand même que Boeing n'investit pas sur un nouveau super jumbo, un concurrent à la 380. C'est parce que le marché n'est pas assez important, Yann Kochenek.
Alors, je vais juste peut-être répéter oui. une petite info. Je me souviens très bien avoir rencontré un responsable de Boeing, qui, je ne donnerai pas son nom, qui m'a dit le problème d'Airbus, c'est que au moment où ils ont lancé la 380, il y avait bien sûr cette problématique d'être en capacité de proposer une gamme équivalente, une famille complète, aussi complète que celle du concurrent Boeing. Mais ils étaient persuadés à l'époque que Boeing se fait gagner énormément d'argent avec le 747, que c'était une véritable vache à lait. Or, me disait-il, on n'a jamais gagné d'argent avec le programme 747 du début jusqu'à cette fin qui approche, comme le souligne Monsieur Carcaillet. Il y a peut-être eu une mauvaise appréciation du côté d'Airbus sur la réalité des coûts, non pas du marché, parce que c'est vrai que il y a de la place et on le voit bien pour un avion de cette taille. Et je pense que les 10 années qui viendront permettront de valider définitivement ce scénario.
Donc pour vous, il y a un avenir pour les super jumbo.
Oui, parce que et c'est vrai que les gens d'Airbus essayent de nous convaincre, c'est leur job. Ils nous disent bon, écoutez, c'est bien simple, le trafic double, le trafic de passagers, le trafic aérien de passagers de mondial double tous les 15 ans, quelles que soient les crises. Crise financière, crise sanitaire. On se rappelle que bon, il y a des à-coups, bien sûr, parfois brutaux, mais c'est vrai qu'il y a cette tendance de fond. Donc, qui dit trafic toujours en croissance, presque perpétuel, parce que c'est dans la logique des choses, avec l'émergence des pays asiatiques, des Chinois qui prennent l'avion de plus en plus, des Indiens qui... Là, on parle de masse considérable, hein, c'est pas les 300 millions d'Européens, là, on est dans 2 milliards.
Dans deux pays à plus d'un milliard d'habitants.
Donc ce trafic mondial va continuer à croître et les aéroports ne pourront pas suivre. D'ailleurs, certains ne suivent pas, et d'ailleurs, on voit bien le débat autour de Nantes, on voit bien qu'il est de plus en plus difficile de construire de nouveaux aéroports en Europe.
Alors, Richard Carcaillet, ces 10 ans de grâce, si je peux dire ça comme ça, qui vous sont offerts par ce contrat avec Emirates, est-ce que ça peut être les 10 ans dans lesquels, l'Airbus A380 va naturellement s'imposer? Parce qu'on en construit quand même des nouveaux aéroports, peut-être pas en Europe. Je pense par exemple à des aéroports géants comme à Istanbul qui sont en train d'être construits.
Oui, mais ils se construisent justement pour faire face à un accroissement important du trafic, et que les aéroports existants sont totalement saturés. Ceci dit, il faut savoir que, par exemple, sur les 200... Bon, il y a 222 à la fin de l'année dernière, 222 à 380 en service avec 13 compagnies, qui font à peu près 300 vols par jour, à 99% de fiabilité technique. Donc, ce sont des avions qui sont utilisés très, très intensivement, plus de 13 heures par jour par leurs opérateurs. Il y a plus de 50 vols par jour sur Londres Heathrow, qui est un des aéroports majeur du monde entier pour beaucoup, beaucoup de lignes long courrier, et qui ne peut croître à l'heure actuelle que par l'addition de vols d'avions de plus grande capacité, tels que la 380. La 380 représente déjà 10% du trafic de Londres Heathrow. Donc c'est un avion qui a trouvé quand même sa place, qui a son marché, qui va s'imposer naturellement avec la croissance du trafic aérien qui double à peu près tous les 15 ans, comme on l'a dit, en effet, et que l'infrastructure aéroportuaire ne suivra pas ce rythme. Le rythme, il est de 4 à 5% d'augmentation du trafic par an. Et on regarde les dernières années qui ont été assez bonnes, on parle même de 6 à 7% d'augmentation du trafic passager chaque année. Donc il est hors de question qu'on puisse se passer d'un avion de grande taille pour opérer sur les routes les plus importantes. Pour donner une idée, bon, Singapore Airlines fait 3 fois par jour Singapour-Londres avec la 380. Qantas fait 2 fois par jour Sydney Los Angeles avec la 380. Korean Air fait 2 fois New York Séoul avec la 380. Voilà, un avion qui a trouvé sa place sur les routes majeures du monde sur lequel se concentre une grande partie du trafic aérien.
Vous parliez de l'aéroport Heathrow et de son terminal 5, donc qui est ultra moderne, qui est assez récent et qui ne sera pas agrandi de sitôt. Donc quand on parle d'Heathrow, on parle de British Airways, qui est toujours d'ailleurs un des plus gros opérateurs de 747, notamment en Europe. Ils vont mettre les 747 au rancard d'ici 2024. Est-ce que justement ça, British Airways, c'est une piste commerciale qui est importante pour vous?
Bien sûr, c'est un des opérateurs importants, on en a 13, hein, je viens de le dire. British Airways opère 12 à 380. British Airways voudrait ouvrir, je pense, encore d'autres routes significatives avec cet avion, que ce soit aux États-Unis ou en Asie ou en Afrique. Et évidemment, nous continuons les discussions, comme avec tous nos opérateurs actuels, pour leur montrer les possibilités d'opérer quelques A380 supplémentaires. Et je compte bien que British Airways pourrait faire partie des compagnies qui continuent d'acheter du 380 pour compléter leur flotte et avoir les bons résultats économiques et aussi commerciaux, c'est-à-dire en termes de popularité auprès des passagers que leur permet cet avion.
Alors, Yann Kochnek, est-ce que cet avion, j'allais poser la question comme ça, pour des raisons de coût, de taille, d'adaptation des infrastructures aéroportuaires, est-ce que cet avion fait quand même un peu peur?
Ah, il a certainement fait un peu peur à des compagnies aériennes.
Le prix catalogue, c'est 445 millions de dollars, hein, c'est ça pour l'unité.
Ouais, mais moi je l'ai connu à 320, donc il y a une belle progression. Non, puis après il y a le prix catalogue, il y a après les
discussions. Et puis il y a le vrai prix. Voilà.
Il y a les vrais prix. Je pense qu'on ne paye pas le même prix si on en achète 6 ou 30. Non, c'est clair que le meilleur exemple d'optimisation, d'utilisation de cet avion, c'est Emirates. Parce que là, il joue sur l'effet masse et avec des économies d'échelle, etc. Donc là, c'est un outil économiquement extrêmement performant puisque ils ont pu, avec le volume, grâce à 380, partir dans une conquête de parts de marché grâce à une recette unitaire plus basse que les autres. Et d'ailleurs, les compagnies européennes et asiatiques en ont souffert. Mais pour une compagnie aérienne comme Axis, je pense que la gestion de l'après 380, une fois que les avions étaient en flotte, a dû être beaucoup plus difficile et périlleuse. Donc, il est possible que celles qui en ont pris 6 vont encore prendre un peu de temps avant d'en prendre d'autres.
Richard Carcaillet, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit ?
Je voulais juste rajouter pour compléter ce que dit Yann, qui est tout à fait correct. Hein, Emirates a basé son modèle notamment sur la 380, mais aussi sur le Boeing 777, qui est l'autre avion dans leur flotte dont ils sont le plus gros client et de loin. Donc c'est un modèle de compagnie assez unique et qui s'est imposé d'une manière assez spectaculaire, je dirais, sur certaines routes, pas sur toutes les routes du monde non plus. Donc une compagnie qui a basé sa stratégie de flotte et donc ensuite d'exploitation, aussi bien au niveau des coûts que des recettes unitaires, sur deux types d'avions qui sont la 380 et le Boeing 777.
Alors,
ce qui dit sur les opérations de flotte qui font une dizaine, une douzaine d'A380, on voit les compagnies aériennes qui en font de très bons résultats. Je note, c'est assez intéressant, on voit Qantas qui renouvelle les cabines de ces A380, qui sont en flotte. On voit Singapore Airlines qui prend livraison de nouveaux avions avec une nouvelle cabine également dans toutes les classes. Donc c'est un avion qu'ils veulent maintenir à la pointe de leur service, de leur produit cabine pour les passagers. Et c'est un avion aussi qui va permettre de développer les services à bord et le confort à bord, qui est la différenciation possible entre compagnies aériennes.
Alors, qu'est-ce qui manque à cet avion ? En quoi l'améliorer ? Une version Néo comme Airbus en fait sur ses autres appareils, ça coûte cher, Yann Kochnek. Est-ce que ce contrat, cette prolongation, va permettre d'investir l'argent qui est nécessaire pour faire vivre davantage cet A380 ?
Ah, je pense que c'est un peu trop tôt pour parler d'un nouveau moteur, mais... Enfin, je veux dire, dans sa forme concrète. C'est clair qu'avec Rolls-Royce, les discussions continuent, hein, entre Emirates, Rolls-Royce et Airbus. D'autant que, quand même, le Rolls-Royce est sur le long courrier le partenaire privilégié d'Airbus. Enfin, est devenu le partenaire privilégié. Donc, alors, c'est pas une partie à trois, mais tout le monde a intérêt à s'entendre pour le mieux de tout le monde. Donc, je ne sais pas si on. D'ici 5 ans, il y aura un nouveau moteur, enfin, ou un moteur amélioré pour la 380, mais il est clair que Airbus comme Emirates ont tout intérêt à continuer à travailler, à améliorer l'économie de cet avion, en le rendant un peu plus économe encore, parce que bon, en termes de réduction de nuisance sonore, je pensais à Londres Heathrow, il a fait ses preuves, hein. On peut dire que c'est un avion très très silencieux. Est-ce qu'on peut encore réduire son empreinte avec un moteur plus performant? Certainement. Moins gourmand encore, certainement. Mais
une
aérodynamique
produit éventuellement.
Oui, mais ce seront des progressions quand même qui resteront à la marge.
Vous êtes.
Mais quand même, tout est bon à prendre.
Oui, merci Yann Kochnek. Et ben, on arrive au bout de cette émission. Merci Richard Carcaillet d'avoir été en direct avec nous de Toulouse pour parler de cet avion et de l'avenir des gros porteurs. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation ce soir, Valentin Vanner. Vous pouvez nous retrouver et nous podcaster sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, ainsi que sur nos applications mobiles, dont l'appli RFI Pure Radio sur les principales plateformes mobiles. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.